Говорит Москва.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Écoutez, je vous propose donc ce podcast. Vous savez que le podcast paraît le 15 du mois, plus tous les dimanches soirs, quand l'actualité l'exige, et elle l'exige. Et en plus, je propose d'innover. Je propose en effet de commenter vos commentaires. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement pas le temps d'y répondre par écrit pendant la semaine. Je parle évidemment des commentaires suite aux articles publiés sur les deux plateformes sur lesquelles je publie, à savoir www.jacquesfrantz.com et l'autre plateforme qui est media-presse.info, www.media-presse.info. Ça, ce sont donc les deux plateformes, et vous commentez, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie, à commenter. Simplement, comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de répondre à tout. Par conséquent, je me suis dit que ce serait bien de faire un podcast. Alors, je ne peux pas prendre tous vos commentaires, ça n'est pas possible, ça serait trop difficile et trop chronophage. En plus, il y a des commentaires qui n'appellent pas de réponse. Mais ne pensez pas que si votre commentaire a été mis de côté, oublié, ne pensez pas qu'il était inintéressant. Simplement, il y a aussi des contraintes de temps. Vous le comprenez. Alors donc, nous allons commencer avec les fidèles, d'entre les fidèles, hein, des gens qui commentent régulièrement. Après, je vous suggère d'aller voir les articles sur les plateformes que je viens de citer, donc le jacquesfrantz.com et MediaPresseInfo. Pourquoi ? Parce que vous pourrez éventuellement voir les commentaires, et vous pourrez surtout voir les sites. Parfois, les lecteurs mettent des liens vers des sites, et ils ont raison de le faire, mais je peux pas, là non plus, je peux pas mettre tous ces liens sur YouTube, ça serait trop chargé, en fait. Donc je veux pas le faire, et par conséquent, je vous suggère d'aller voir les sites. Je le signale hein, quand il y a un site. Et vous pouvez aller voir donc sur l'article concerné. Alors, on ouvre cette nouvelle rubrique. Alors, bien sûr, les deux sujets que j'ai traités cette semaine, ce sont les incendies et puis la question de l'expulsion qui a été prononcée contre Ksenia Fyodorova. Bon, là aussi, hein, donc allez voir tout simplement les articles. Sur les incendies, un podcast a été publié la semaine dernière. Et il y a également donc ces deux articles sur mon blog et sur Mediapresse Info. On ouvre le bal avec une fidèle d'entre les fidèles, c'est Isabelle, qui nous dit que chaque incendie cache un projet. Il n'y a hélas pas de secret. Bonne question en effet. Pourquoi la Gironde ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Peut-être un élément de réponse ici, et là Isabelle nous donne un site que je vous conseille donc d'aller voir, c'est très intéressant. Et puis elle ajoute dans un autre commentaire, nos dirigeants s'ennuient, les pauvres chéris. Il est vrai que, mis à part le fait que la France brûle, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors c'est très intéressant, Isabelle, parce que évidemment, alors vous la connaissez peut-être pas, Isabelle, moi je la connais, et c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, et la chanson d'après-guerre de Ray Ventura et les collégiens, Tout va très bien, Madame la Marquise, qui a même été traduite en russe, Всё хорошо, прекрасная Маркиза. Bref, cette chanson parle justement d'incendie. En l'occurrence, c'est un château qui est incendié. Mais voilà, donc en tout cas, Isabelle a toujours des allusions parce que évidemment, son immense culture le lui permet. Ensuite, nous avons Arnaud, aussi un fidèle des articles depuis plusieurs années, et qui nous dit « J'avoue être très béotien concernant ce sujet des feux de forêt. Je constate juste que les moyens financiers n'étant pas illimités, ce que nous avons donné à la clique mafieuse qui prétend diriger l'Ukraine, nous ne l'avons pas pour protéger ni les nôtres, ni notre patrimoine. » Et oui, c'est pas faux, Arnaud, vous avez parfaitement raison. Rien n'est trop beau pour l'Ukraine, et rien, évidemment, du coup, bah, y a plus rien pour nous, il manque de tout, il manque des hôpitaux. Nous, il faut se serrer la ceinture et faire des économies. On nous explique que c'est la crise, mais c'est pas la crise pour Zelensky. Vous avez parfaitement raison là-dessus, Arnaud, je vous rejoins. J'ajoute, pour ma part, que ce n'est pas qu'une question d'argent, bien entendu, hein. Par ailleurs, nous dit Arnaud, nous mettons à dos les autorités russes. Il me semble que nous nous sommes coupés d'un allié sûr, francophile et généreux, et qui en plus dispose de moyens techniques pour nous venir en aide. Oui, c'est pas faux, vous avez parfaitement raison, Arnaud. Les Russes sont effectivement très francophiles et ils le sont encore. Alors un peu moins leurs dirigeants maintenant, hein. On est quand même classé dans les pays, enfin la France et la Suisse, et la Belgique, enfin bref, tous les pays francophones sont classés dans ce qu'on appelle ici les pays hostiles. La francophilie est en train de trouver ses limites. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein, tellement, mais c'est vrai que ça fait mal. Parce que, heureusement, les Russes ne sont pas du tout, là je parle de la population évidemment, fait totalement la différence entre les dirigeants et la population, surtout la population qui se rend en Russie, et les Russes restent effectivement très fiers. Du reste, nous dit Arnaud, si vous avez le cœur bien accroché, il y a la vidéo de la discussion de Macron entre de Macron et de la dame faisant office de préfet de la Gironde. Non, on n'a pas le cœur assez accroché, j'ai vu la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai du mal à déterminer qui est l'homme et qui est la femme dans ce truc. Enfin bon, bref. Donc non, mais enfin, vous pouvez aller la voir. Beaucoup ont vu, bien sûr, cette vidéo. Macron s'étonne de la manière dont Macron semble se réjouir en réalité de la situation. Ce type suinte véritablement Satan. Ouais, il y a quelque chose de vrai malheureusement là-dedans. Je le répète, je le répéterai encore et encore. C'est votre droit, Arnaud. En tout cas, vous avez le droit. J'ai détesté Chirac, nous dit toujours Arnaud. J'ai abhorré Sarkozy, mais je ne pensais pas qu'on puisse faire largement pire. Si, si, on peut toujours faire pire. On peut toujours faire pire, Arnaud. Le problème, c'est que je sais. Depuis Mitterrand, mais même depuis Giscard, je puis vous dire, sans me tromper, que chaque successeur a toujours été pire. Chaque président est toujours pire que son prédécesseur. C'est une règle absolument infaillible, et ne doutez aucunement que le prochain président de la République, qui devrait, je dis bien qui devrait succéder à Macron, sera pire que Macron. Voilà. Donc ça, là-dessus, que personne n'en doute. Et malheureusement, Arnaud, on ne peut que vous donner raison, c'est très dommage. Nous avons Rico qui nous demande si ce ne serait pas plutôt le projet ARP. H-A-A-R-P. J'ai pas suffisamment de connaissances sur le projet ARP. Je pense que j'en ai entendu parler, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Non, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir plusieurs projets, il peut y avoir une conjonction de projets, des projets immobiliers, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas l'immobilier, c'est le photovoltaïque. D'autres non, c'est pas le photovoltaïque, c'est le projet A. Non, c'est pas ceci, non, c'est pas ça. Écoutez, très franchement, je ne sais pas. Toujours est-il que à la base, il y a une volonté de nuire. Et ça, c'est, on ne m'enlèvera pas de l'idée, hein, tant qu'il n'y aura pas de condamnation sévère prononcée, eh bien, ça ne changera rien et ça ne fera pas varier mon opinion. Nous avons Olivier ensuite qui s'exprime. Olivier, c'est aussi un fidèle. C'est quelqu'un là aussi que j'apprécie beaucoup parce que je le connais personnellement. C'est un camarade de lutte. Nous avons ensemble gagné devant la justice genevoise. C'est eux qui nous entraînent en justice. Ils ont perdu. Voilà. Et donc Olivier, c'est un camarade de combat. Donc évidemment, coup de chapeau à lui et merci beaucoup de venir, d'abord d'être fidèle et de lire les articles. Très amusant, Zelensky aurait proposé son aide, nous dit Olivier, contre les incendies qui ravagent la Gironde. Entre peuples frères, contre l'agression russe, ben voyons. À part cela, nous dit Olivier, merci pour le lien que je ne connaissais pas ce site d'information, donc il parle de Média Presse Info. Je suis très très content d'avoir fait connaître à Olivier Média Presse Info, comme ça j'ai apporté ma très modeste contribution à Média Presse, à savoir que je leur apportais un lecteur, parce que je leur apporte certes mon blabla, mais si je peux leur apporter en plus des lecteurs, c'est absolument magnifique. Je suis très très content. Oui, Olivier, sauf que ce que je dirais, et pardon de vous corriger, c'est que ce ne sont pas, les peuples sont tous frères. Là, ce sont surtout les dirigeants qui sont frères. Alors, frères en quoi? Beaucoup de choses. En consommation, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que on est quand même un tout petit peu obligé de surveiller ici ces propos sous peine de tout simplement de disparaître. Donc il faut faire quand même attention. Nous avons Toto qui nous dit qu'il n'y a pas que les promoteurs et le béton qui sont la cause des incendies, mais il y a aussi peut-être une attaque contre les lieux catholiques. Et il nous donne l'exemple de La Grasse ou Cotignac. Je ne sais pas où ça se trouve, mais il nous dit « Vous avez raison de remarquer que quand les incendiaires sont appréhendés, on n'entend plus parler du jugement ni de la condamnation. Et pour cause, ils ne sont pas condamnés. Pourtant, la presse devrait en faire un foin. Un cas dans ma région, 5 départs de feu, très espacés, à 2h du matin. Le préfet s'est empressé de parler d'orage de chaleur. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est un orage de chaleur. Pour moi, quand il fait chaud, il y a de l'orage. Enfin, il peut y avoir de l'orage. Un point, c'est tout. Bref. Mais si vous pouvez éclairer ma lanterne, je ne suis pas un spécialiste en météorologie, loin de là. Bien sûr, aucun éclair ni foudre cette nuit-là. L'incendiaire a été identifié. Seuls les gendarmes et les pompiers ont été au courant et le préfet n'a pas corrigé sa première déclaration. Cela fait 5 ans et aucune nouvelle d'un procès. Alors oui, ben ça ne m'étonne pas, bien sûr. Alors, s'il y a eu un incendie volontaire et aucune condamnation, c'est à mon avis qu'il y a eu quelque part quelque chose de volontaire. En tout cas, il y a dysfonctionnement de la justice. Le problème, c'est que c'est un dysfonctionnement qui devient absolument systématique. Alors, Arnaud en remet une couche sur la préfète de Gironde. Ah ouais, il l'aime pas, hein. Arnaud nous explique que, d'après la voix, parce que Arnaud explique qu'en tant qu'aveugle, il se fie beaucoup, il ne peut pas se fier évidemment aux apparences, donc aux apparences physiques ou vestimentaires ou quoi que ce soit, et il se fie à la voix. Et il avait soupçonné, d'après la voix, la manière de s'exprimer, il avait soupçonné disons d'une forme d'inversion. Et il nous a trouvé cet article. Sophie Broca, préfète de Gironde, est aussi une écrivaine, j'adore, une écrivaine accomplie même. Son dernier et cinquième roman, Le Lit Clos, raconte une histoire d'amour entre deux femmes sur fond de grève des sardinières de Douarnenez en 1924. Rose, 18 ans, catholique, paysanne, devenue ouvrière, découvre l'amour et la passion dans les bras de Louise, la veuve communiste athée, meneuse de la grève. Finalement, après la grève victorieuse, Rose souhaite fonder une famille, rattrapée par son éducation religieuse, tandis que Louise part à Paris rejoindre la scène artistique. Ils peuvent vraiment pas s'en empêcher, hein. La préfète a fait une partie de sa carrière de haute fonctionnaire. On aurait envie d'en rire si c'était pas tragique. Sous l'aile du PS, depuis le bureau du président socialiste du Sénat, Jean-Pierre Bel, en passant par l'Élysée sous Hollande et le ministère de la transition écologique sous Borne. Et avant sa tardive reconversion dans la fonction publique par l'ENA, Sophie Broca a été journaliste et communicante. Ça tombe bien, on a besoin que de. On a, enfin, ça, c'est moi qui l'ajoute. Hein. On a besoin de communicants. D'ailleurs, on ne sait faire que ça, que communiquer en réalité. C'est fort dommage, mais c'est comme ça. Ouais, c'est obsessionnel, c'est communautaire, ce sont des cooptations. Malheureusement, on le sait tout ça, mais c'est très bien, Arnaud, de le rappeler. Merci beaucoup de ce commentaire. Nous avons ensuite Nissa qui nous dit, elle signe Nissa en tout cas. Après les incendies du côté d'Austin, alors je ne sais pas comment on prononce, hein, si c'est Austins ou HOSTENS, un peu plus au sud de Porge, du Porge, pardon, le Porge qui était extrêmement, c'est un village martyr, hein, certains d'ailleurs soupçonnent là aussi une véritable volonté de nuire, une absence de secours, alors certains disent que ce serait pour sauver le Cap Ferret et d'autres, mais nous allons y revenir. Et donc ces incendies avaient ravagé des milliers d'hectares de forêt il y a 2 ans. On a vu fleurir des hectares de panneaux photovoltaïques. Très intéressant. Un dossier, écarté pour l'instant, revient forcément en mémoire. Orizeo, le parc photovoltaïque géant prévu dans la forêt de Socats. Je ne connaissais pas non plus. 680 hectares de forêt pour produire de l'électricité verte, entre guillemets. Et ce projet donc prévoit une centrale photovoltaïque de 820 MW sur environ 680 hectares. Un supercalculateur et un data center dédié à l'intelligence artificielle qui s'appelle Projet Bordeaux IA. Vous nous donnez, Nissa, vous nous donnez le site, ce dont je vous remercie. Vous irez le voir sur Mediapresse Info. Vous irez voir ce commentaire. Hein, c'est les commentaires qui sont en dessous de cet article. Et bah oui, il y a des... Voilà, cela ne fait que corroborer ce que je dis. Je suis évidemment entièrement d'accord avec vous. Il y a plein de choses qui sortent. Vous savez, je le dis souvent et je pense que c'est un fait sociologique vraiment très intéressant. Maintenant, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du numérique... Eh bien, on a la possibilité, on a maintenant la mémoire. D'abord, on peut faire soi-même ces archives. On peut filmer soi-même beaucoup plus facilement. On peut photographier. Aujourd'hui, tout le monde a en permanence un appareil photo sur lui. Ce qui fait que, du coup, on a la mémoire et on peut retrouver. Et Internet n'oublie rien. Il faut le savoir. Chouan 12. Et si la canicule était tout simplement la modification du climat ? Organisé par des gens qui nous veulent du bien pour voir si leur système marche bien. Regardez la carte météo de l'Europe, c'est curieux. À l'est, pas de canicule. À l'ouest, canicule. Bizarre, non ? Alors, je dois avouer, très franchement, que... Bah, à Moscou, tout le mois de juillet, puisque vous savez que je réside à Moscou, eh bien, tout le mois de juillet, nous avons eu, au pire, au plus chaud, nous avons eu 25 degrés. Voilà. Donc, et de la pluie et tout ça. Alors, moi, on peut me parler de réchauffement climatique, hein, mais vous savez, c'est d'abord, il faut se projeter dans le temps et aussi dans l'espace. C'est pas parce qu'il fait chaud chez soi que le climat se réchauffe, surtout quand il fait pas spécialement chaud ailleurs. Je reviens à Nissa qui nous laisse un commentaire vraiment intéressant. Je vous rejoins entièrement sur l'analyse immobilière que vous décrivez, où le sud-est inabordable et défiguré a été délaissé au profit du sud-ouest, possédant encore des terrains moins chers, devenus constructibles grâce aux pressions des promoteurs sur les élus. Bah merci beaucoup de me rejoindre, parce qu'effectivement, c'est l'article. Alors moi, je ne fais que d'écrire des faits. Hein. Et on a du recul maintenant. C'est la course à l'échalote où les gens du coin, avides de bénéfices, ne réalisent pas à quel point ils sabordent leur environnement. Alors ça, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que des gens du coin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a... Effectivement, les gens ne se rendent pas compte. On leur propose des prix faramineux. Ils se disent « je serais bien bête de ne pas en profiter ». Mais après, ce sont les premiers à se plaindre, effectivement, que leur environnement est dégradé. Ma famille se désole de voir Nice transformée, entre parenthèses, bétonisation et population exogène qui impose leurs mœurs, mais s'enorgueillit du prix faramineux de ses appartements au centre-ville où la population et le bruit sont insupportables jour et nuit. Société festive oblige. Ajoutez-y la canicule et... vous fuirez cette destination si vantée par ceux qui en tirent bénéfice. Alors oui, bah oui, comme dirait Bossuet, hein, Dieu se rit des hommes qui... Attends, c'est comment déjà ? Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà. Donc oui, bah, malheureusement, les gens ne sont pas à une contradiction près. Bardamu, très intéressant l'article de Bardamu, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Bardamu nous dit « Personne de sensé nie le changement climatique, d'autant plus que le climat a toujours changé au cours des siècles et des millénaires. Par contre, ce qu'il faut combattre, c'est l'attribution de ce changement climatique à l'activité humaine et surtout à la mise en cause surtout la mise en cause du CO2, gaz rare dont la proportion dans l'atmosphère est actuellement de 0,42% en augmentation, ce qui est une bénédiction pour la nature et l'agriculture. Les politiques qui en découlent ne sont rien d'autre que des programmes de ruine économique. L'homme est responsable des changements locaux dus principalement à l'urbanisation, la modification d'usage des sols et d'autres facteurs mineurs. Alors, oui, je suis assez d'accord avec vous à ceci près que si le climat change tout le temps. D'ailleurs, maintenant, on parle plus trop de changement climatique, on parle de dérèglement climatique. Or, le climat n'est pas quelque chose, est précisément quelque chose qui n'est pas réglé, puisque ça change tout le temps. Cependant, ajoute Bardamu, la machine climatique met en jeu des énergies tellement gigantesques qu'elles sont hors de portée des activités humaines pour l'éternité. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous parce que on peut pas faire la pluie et le beau temps de façon durable. On peut influer sur le climat de façon très locale pour faire monter de plusieurs degrés la température, par exemple, effectivement, ou pour la faire baisser. Par exemple, si on choisit la végétation à la place du béton. Vous savez, les mairies écolos qui vous font des pistes cyclables pour que vous rouliez à vélo parce que c'est leur idéologie et qui pour ça enlève des arbres, eh bien ils font augmenter la température de quelques degrés dans la ville. Bardamu poursuit. Quant au blocage cyclonique que connaît la France depuis la fin du printemps, ils sont limités pratiquement à notre pays. Ce sont des événements météorologiques exceptionnels. La mémoire humaine en la matière étant celle du poisson rouge. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Bon, après, il y a eu effectivement des canicules, des incendies en Espagne et dans d'autres pays. Or, il y a une position un peu analogue de Franz Kantz qui nous dit « J'ai une position plus nuancée sur le changement climatique. » Il y a trop de preuves et d'indices tels que les changements observables sur la faune et la flore et trop de publications scientifiques indépendantes les unes des autres pour nier ce changement. On peut discuter sur les causes, pas sur le phénomène constatable. Or d'abord, cher Franz Kantz, on discute de ce qu'on veut. Et non, tout est discutable. On peut avoir tort, raison, mais c'est très important que les opinions, y compris parfois des opinions farfelues, y compris parfois des opinions qualifiées de façon plus ou moins abusive de conspirationniste ou quoi que ce soit, c'est important que toutes ces opinions s'expriment. Il poursuit Franz Kantz. Ce n'est pas parce que les écolos disent une chose que cette chose est fausse. Une pendule détraquée donne l'heure juste deux fois par jour. Et même les charlatans comme les astrologues, j'en bafouille, finissent toujours par dire quelque chose de vrai à force de dire n'importe quoi. Alors, d'abord, c'est pas la pendule détraquée qui donne l'heure juste deux fois par jour, c'est la pendule arrêtée. C'est-à-dire qu'effectivement, il arrive au moment quand la pendule est arrêtée sur une heure, eh bien, il arrive un moment où l'heure juste correspond à l'heure que montre la pendule. Oui, mais bien sûr, mais cela étant dit, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque vous dites un petit peu ce que disait déjà le commentaire précédent, à savoir que les changements climatiques, il y en a tout le temps eu, il y en aura tout le temps. Si le Groenland s'appelle le Groenland, c'est précisément parce que c'était une forêt. Aujourd'hui, c'est de la glace. Je crois Paris en 1798, c'était des températures sibériennes. Donc oui, il y a des cycles, il y a des le climat change tout le temps, mais on est d'accord, mais c'est une perpétuelle évolution. C'est pas quelque chose de fixe, le climat. C'est pour ça que c'est un peu idiot de parler de quelque chose qui change tout le temps, d'en parler en termes de changement. Non, c'est une perpétuelle évolution. Il nous dit, il y a un vrai changement climatique qui est vraiment exploité par nos dirigeants pervers. Alors là, oui, nous sommes d'accord. Ces gens ne sont pas incompétents, ils sont malveillants, entièrement d'accord avec vous. Ils savent s'entourer de personnes intelligentes et compétentes, en particulier dans l'art de la manipulation. Oui, ben les communicants dont on parlait tout à l'heure, hein. Ils sont capables d'avoir allumé ces incendies, mais l'état de la végétation aurait de toute manière conduit à la catastrophe actuelle. Oui, et d'ailleurs, qu'est-ce qui est responsable de l'état de la végétation actuelle, si ce n'est les écologistes qui interdisent le débroussaillage? J'étais jeune adulte en 1976. J'ai observé la sécheresse. Les températures étaient moins démentes. Alors ça, je suis pas sûr, hein. La mémoire de poisson rouge dont on parlait tout à l'heure, non, on oublie vite. Il a fait très chaud en 76. Il a fait très chaud et très sec. Il faut savoir que la salle du Conseil des ministres n'était pas climatisée, qu'ils étaient obligés de tenir le Conseil des ministres volet fermé. C'était encore Chirac qui était Premier ministre à l'époque. Moi, je m'en souviens très bien. Et par conséquent, vous vous rendez compte, ça fait 50 ans. Et je dis que je m'en souviens très bien. Vous vous rendez compte un peu comme ça passe vite. Bref, tout ça pour dire, alors moi j'étais pas jeune adulte, hein, j'étais jeune enfant à cette époque, mais tout de même, non, il a fait très chaud en 76, et les forêts des Landes étaient mieux entretenues à mon souvenir, mais on sait ce que vaut la mémoire humaine. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez parfaitement raison de dire ça. Nos souvenirs sont ce qu'ils sont. Mais non, il a fait très chaud. Cette année 2026. Ah oui, il y a autre chose que je voulais dire aussi. Oui, la forêt des Landes était entretenue et ça a brûlé énormément. Et d'ailleurs les autres années aussi, pas seulement en 76, ça a beaucoup brûlé sur la côte d'Azur, dans le sud-est de la France, et pas du tout dans le sud-ouest. Cette année 2026, nous dit notre commentateur, de très fortes pluies ont permis au printemps à la végétation de croître intensément, puis les canicules précoces l'ont desséchée. Cela suffit comme explication. Non, ça ne suffit pas comme explication, je suis infiniment désolé. Le rasoir d'Occam est souvent un bon outil. Je ne sais pas ce que c'est que le rasoir d'Occam. Il faudra nous l'expliquer. Pour ce qui est d'allumer ces feux, j'ai pu observer en Corse un départ en 1978 à partir d'un mégot jeté d'une voiture. Ce fut instantané. J'étais en vélo derrière la voiture du fumeur imbécile. Il m'a fallu moins d'une minute pour atteindre le départ de feu. Je ne pouvais plus rien faire. Les flammes couvraient déjà plus de 2 mètres carrés et avaient 3 mètres de haut. Le maquis était une vraie poudrière. Alors, oui, très bien, mais dans nos articles et dans les podcasts ici, on ne dit pas du tout qu'il n'y a pas des gens qui ont mis le feu par inadvertance en jetant des mégots par la fenêtre. On ne le dit pas. Ce qu'on dit, je veux dire, il y a bien entendu des incendies totalement involontaires. Il n'y a pas que des incendies volontaires. La plupart, à mon humble avis, sont volontaires, mais il y a bien entendu des incendies involontaires. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que même les incendies involontaires, quelqu'un qui a jeté un mégot par la fenêtre doit être condamné. Je veux dire, le fait de produire un préjudice à autrui par négligence, Ça existe dans le code pénal et ces gens-là. Alors, je conçois qu'il est certainement très très difficile comment dirais-je, de trouver quelqu'un qui a jeté un mégot. Mais enfin, c'est pas impossible. La preuve, c'est que vous-même en avez pris en flagrant délit. Par conséquent, c'est tout à fait possible. Et la négligence est aussi extrêmement coupable. Les dégâts autrui de façon involontaire, par négligence, et c'est une négligence coupable, une négligence extrêmement grave, surtout que, je veux dire, il faut être débile, quoi. Faut être vraiment fou allié pour dans le maquis corse au mois d'août, pour balancer ces mégots de cigarettes encore allumés. C'est juste c'est aussi criminel. Une autre piste, ce sont les consignes de Daesh, l'État islamique, demandant explicitement d'allumer des incendies. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais ne négligeons pas la stupidité humaine comme cause possible de ces incendies. C'est toujours une valeur sûre. Alors, oui, bien sûr, on est d'accord, cher commentateur, cher Franz Kant, on est tout à fait d'accord. Oui, après, il y a il peut y avoir aussi une conjonction de malveillance. Ici, on ne dit pas que c'est qu'une cause. On dit que on sait que 90% des incendies sont d'origine humaine. Alors là, pour le coup, l'origine anthropique, elle est prouvée. C'est bizarre, les écolos n'insistent pas du tout là-dessus. Ils n'insistent surtout pas sur leur responsabilité. Bon, ça peut se comprendre. Mais 9 incendies sur 10 sont d'origine volontaire, sont d'origine humaine. Et la part des incendies volontaires est, à mon avis, extrêmement conséquente. Maintenant, il se peut aussi que le système profite d'incendies involontaires. Il peut y avoir aussi un effet d'aubaine. Tout ça est possible. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. C'est tout. Et le fait qu'il n'y ait pas de condamnation signe, évidemment, le caractère volontaire, le caractère voulu de ces incendies. Donc il nous dit leur principale utilité ne me semble pas la spéculation immobilière. Ouais, enfin bon, Sophia Antipolis sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, c'est quand même un complexe qui a été construit sur des terres brûlées. Donc moi, vous me dites, c'est pas la spéculation immobilière. Bah ouais, mais les forêts de pins avec vue imprenable sur l'océan, je pense qu'il y a plus d'un promoteur qui considère que c'est un peu couillon d'y laisser des arbres alors qu'on pourrait construire de magnifiques villas à très cher. D'accord? Bon, donc si vous voulez, vous. Non, vous c'est pas tenable. Alors, à moins que je vous ai mal compris, mais en tout cas, à mon sens, ça n'est pas tenable comme opinion. Les puissants savent qu'il ne faut plus détruire de terre. Bétonner des sols cultivables, même les sols pauvres des Landes de Gascogne. Oui, bien sûr, mais ça, tout le monde le sait, hein. Au bord de l'océan, ils se sont amusés à construire des lotissements, des villas, etc., sur du terrain sablonneux. C'est en train de véritablement se casser les figures. Bientôt, on va voir des bâtiments s'écrouler dans la mer. Et ça coûte très très cher à l'entretien, parce que, précisément, les sols sont instables. Les sols sont instables, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, non, je crois qu'il y a effectivement quelque chose de tout à fait volontaire là-dedans, et c'est vraiment très grave. On va finir avec ce sujet avec Jean qui nous présente une hypothèse climatique. Dans une année normale, les mois de juin, juillet et août, une zone de basse pression est précisément centrée sur l'Iran. Et il nous donne un site que je vous conseille d'aller voir, toujours dans l'article Média Presse Info. Cette zone contraint, semble-t-il, les vents d'est en ouest à monter en latitude pour redescendre ensuite sur l'Europe, amenant des températures tempérées en été. En 2026, les USA, moi je préfère les États-Unis, hein, se vantent d'avoir envoyé 25 000 missiles sur l'Iran. Une des conséquences pourrait être que les poussières et les aérosols largués pendant cette opération ont densifié l'air dans la zone initiale de basse pression et ont glissé vers l'ouest, Afrique du Nord et Europe, empêchant les vents de redescendre du nord vers le sud et entraînant les températures anormales en Europe. Je sais pas. Alors, je sais pas quoi dire, hein. J'ai pas les moyens scientifiques de le vérifier. Est-ce qu'on a observé des phénomènes de densification? Ça demande à être vérifié. On ne peut pas en tout cas écouter les vantardises de Trump sur cette question. Ils disent qu'ils ont envoyé 25 000 missiles. Encore une fois, je veux dire, le climat étant absolument gigantesque, enfin, l'énergie qu'il faut pour changer le climat étant absolument colossale, je pense pas qu'il je pense enfin je sais pas, je suis pas scientifique, je peux pas répondre, mais c'est en tout cas quelque chose de très intéressant et il faut en tenir compte. On en a plus ou moins terminé avec ce sujet. Non, il y a encore Boutet qui critique les dessins d'Ignace. On n'a pas tout, oui, pas tout à fait fini parce qu'on a Boutet qui nous écrit, qui commente les dessins d'Ignace et qui les critique de façon assez virulente en disant que le site devrait se débarrasser de ce dessinateur. C'est dégueulasse. Non, 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 on ne touche pas à Ignace. Voilà, c'est hors de question. D'abord parce qu'il est excellent. Ensuite parce que tu es un chic type. Et puis parce que, voilà, on ne touche pas à Ignace. Donc vous serez gentil de garder vos commentaires pour vous. D'ailleurs, Toto lui répond, ce dessin est excellent et cerne le personnage et son pouvoir de nuisance extrême qui détruit la France par tous les moyens possibles. Moi, je ne vais pas non plus en vouloir à Ignace de croquer Macron sur le papier alors qu'il faudrait le croquer tout court. Pour passer donc au sujet suivant, à savoir l'expulsion, enfin l'arrêté d'expulsion contre Xenia Fiodorova. Alors tout a été à peu près dit, hein, c'est-à-dire que oui, Xenia Fiodorova est expulsé pour ses opinions. Oui, parallèlement, des violeurs, des voleurs, des criminels sous OQTF sont en liberté chez nous et ne sont absolument pas renvoyés dans leur pays d'origine. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant. Vous savez que donc quand il y a une expulsion comme ça, il faut un laissez-passer consulaire. Ce serait intéressant de savoir. Ça serait drôle que la Russie refuse le laissez-passer consulaire à Xenia Fiodorova. Tiens, ça serait intéressant. En tout cas, on a Roluri. C'est comme ça qu'il signe. Il dit, viendra le temps où les macronards et ses serfs rendront des comptes sur tout. Alors, je vous fais grâce de ce qui est dit concernant, enfin, des noms d'oiseaux qui sont écrits sur le président Macron. Pas parce qu'il est le président Macron, mais parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec la plateforme qui m'héberge. Pendant ce temps, nous dit Arnaud, toujours au propos de l'expulsion de Fiodorova, et pendant ce temps, nous dit Arnaud, cette belle terre de France accueille tous les supplétifs possibles des pays musulmans, y compris des gens qui se détestent entre eux, mais n'auront pas de grands scrupules à nous tuer pour venger leur frustration. Je laisse Arnaud, évidemment, responsable entièrement de son propos. Je pense à l'inénarrable recteur de la mosquée de Paris, porte-flingue du pouvoir algérien. Mais vous avez la même chose pour les autres pays du Maghreb, la Turquie et quelques autres pays. Fort sympathique. Nous avons Nissa qui revient dans ce sujet, qui vient commenter. Merci à elle. Pour paraphraser le slogan éculé de ceux qui nous veulent du bien malgré nous, cela annonce un retour des heures les plus sombres. Moi, je ne sais pas très bien ce que sont les heures les plus sombres, très franchement. Je pense que c'est maintenant, effectivement, les heures les plus sombres. Les prétendues lumières, poursuit Nissa, dont on nous rebat les oreilles depuis plus de 2 siècles, se transforment en ténèbres pour ceux qui y croient encore. Bah oui. L'histoire bégaye et le peuple est encore spectateur de la sinistre farce dont il est le dindon. Eh bien, c'est sur ce dindon, en tout cas, que nous allons achever le commentaire de vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont fidèlement commenté et surtout qui sont fidèles dans la consultation de ces articles. Merci à eux. Certains me reprochent de ne pas publier suffisamment. Je fais ce que je peux. J'ai du mal à suivre, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous commenter. Vous pouvez revenir, effectivement, si vous avez bien sûr un droit de réponse dans les commentaires sur YouTube et sur le podcast. Vous savez que désormais, nous sommes publiés sur 2 plateformes, donc une hébergée par Google, YouTube, et l'autre hébergée par mes soins sur jacquesfrance.com, et vous pouvez également me retrouver sur les principales plateformes de podcast que sont Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Alors, je crois que Spotify il ne me référence plus, sauf erreur, parce qu'il paraît que je suis dangereux. Tant mieux. La suite, eh bien, c'est cet effroyable attentat qui a eu lieu dans le centre de Moscou, dans un restaurant, lors d'une soirée privée. C'est une soirée qui était organisée pour l'anniversaire d'un haut gradé du nom de Alexandre Tchaïko, nom ukrainien, entre parenthèses, nom NOM. Hein. Voilà. Évidemment, l'Ukraine est montrée du doigt. Côté occidental, j'ai pas vu, j'ai peut-être mal regardé, je n'ai pas vu de condamnation de cet attentat terroriste. Oui, parce que c'est un attentat terroriste. À partir du moment où on fait sauter une bombe dans un restaurant. Alors, l'attentat, en plus, a raté sa cible. Tant mieux pour la cible, mais enfin, il y a 3 morts quand même. L'agent de sécurité qui sera probablement un héros dans les prochaines heures. L'agent de sécurité a empêché la personne porteuse, c'était une femme porteuse de la bombe, d'entrée, et la bombe a explosé au moment de la fouille. Donc l'agent de sécurité, la personne porteur de la bombe et sont décédés, et une troisième personne est également décédée. À côté de ça, il y a 21 blessés, puisque la bombe était chargée de billes d'acier, histoire de faire le plus de mal possible. Voilà exactement qui sont ces gens défendus par les pays occidentaux. Les gens vont me dire oui, mais tu exagères et tout. J'attends les condamnations de cet attentat terroriste. Elles ne viendront pas. Si elles viennent, vous me les mettez en commentaire, hein, avec les liens et tout ce que vous voulez. Mais je vous rassure, les condamnations ne viendront pas. Tout comme les condamnations ne sont jamais venues quand il y a eu l'attentat contre Alexandre Douguin, les condamnations ne sont jamais venues quand il y a eu l'attentat contre Maxime Fomine, les condamnations ne sont jamais venues quand il y a eu l'attentat contre le général Kirillov. La liste n'est hélas pas exhaustive concernant le général Kirillov. Le Times de Londres, très respectable, a dit que c'était une cible légitime, c'est ça, voilà, tirer sur quelqu'un qui est sans armes, pour les gens du Times, c'est une cible légitime. Voilà, ça en dit long sur ce que sont ces gens, je n'en dirai pas plus. Évidemment, nos pensées et nos prières vont aux familles des victimes, puisque quelles qu'elles soient, ce sont des victimes d'une guerre qui est entretenue par l'Occident, malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien peur que si la paix, enfin lorsque la paix sera enfin signée, j'ai peur que ces attentats continuent, c'est-à-dire que les Ukrainiens insatisfaits, enfin pas tous les Ukrainiens bien sûr, hein, mais les bandéristes et les néo-nazis de Kiev frustrés de ceux qui n'auront pas obtenu absolument tout ce qu'ils voulaient, risquent d'avoir recours de manière prolongée au terrorisme. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui est à craindre. Et bien entendu, à Moscou, parce que sinon on va me reprocher de faire la part trop belle à Moscou, on profitera de l'aubaine pour restreindre encore les libertés sous prétexte de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Tout ça, évidemment, n'est pas de très bon augure. Et je ne vous cache pas que ça fait mal. Voilà. C'est sur cette note assez triste que je termine le podcast d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir écouté. Il a été long parce que vous avez beaucoup commenté. Je vous en remercie. Et puis moi, eh bien, je vous retrouve le 15 du mois ou plus tôt, dimanche prochain, si l'actualité l'exige. Dites-moi si vous appréciez les podcasts du dimanche, si vous voulez que ça continue. C'est beaucoup d'engagement, mais c'est quelque chose, ma foi. Ben voilà, si vous appréciez, si ça vous plaît, si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la newsletter sur le blog, faites connaître aussi autour de vous sur vos réseaux, faites connaître ce podcast, faites connaître aussi la chaîne YouTube qui démarre, je compte sur vous, parce que sans vous, ben, j'y arriverai pas, tout simplement. J'ai besoin de vous, et oui, j'ai probablement plus besoin de vous que vous avez besoin de moi d'ailleurs, mais enfin bon, ça se trouve, c'est déjà un autre sujet. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dès que possible. Salut ! Thank you.